Hola, hola, hola. Esto es un saludito y es la manita.
Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 en Ile-de-France, il est 13h, passé de quelques petites secondes. Je suis ravi, on est ravi avec, en ce samedi 18 janvier 2020 avec toute l'équipe de la Manita, de vous présenter votre tout nouveau rendez-vous football sur nos ondes. Parce que le foot est un miroir de nos sociétés, parce qu'on entend tous les jours des analyses de tactiques, de joueurs, mais pas assez de ce qui entoure le rectangle vert, on a choisi dans la Manita de revenir ensemble sur les dimensions politiques, sociétales, économique qui navigue autour du ballon rond. Un samedi par mois, on va tâcher de vous éclairer sur ces grands enjeux et de donner la parole à celles et ceux qui la méritent. La Manita, c'est, comme dirait le général de Gaulle, une certaine idée du football et une entrée idyllique dans votre week-end sport. Autour de moi, ils sont quatre aujourd'hui, étudiants, passionnés, ils manient aussi bien la plume que le cuir. J'ai le plaisir de vous présenter les Fernandez, Tigana, Gires et Platini de notre émission. Voici tout de suite le carré magique de la Manita. En point de basse, j'accueille la plaque tournante de la rédaction, marseillais mais toujours objectif. Swan Dufour sera notre métronome. Salut Swan.
Bonjour Corentin, bonjour à tous.
Hipster footballistique, œil européen, il aime autant parler de la Lazio que de l'Union Berlin ou du Rayo Vallecano. Adrien Drill est avec nous. Salut Adrien.
Salut à tous.
Il est champion du monde et champion d'Afrique. Il a fait ses gammes à SoFoot et France Football. Monsieur Mehdi Arabe. Salut Mehdi.
Salut Corentin, salut à tous.
Et enfin, supporter nostalgique de l'AS Monaco, il ne regarde plus un match depuis 2017 sans avoir la larme à l'œil. Paul Lerettre est notre numéro 10 du jour. Salut Paul.
Hola chicos, bonsoir à tous.
Sans transition, on va tout de suite passer au sommaire. Et pouvait-on consacrer ce tout premier numéro à autre chose que l'essence même du foot, ce sans qui le jeu perdrait toute sa saveur? De Liverpool à Buenos Aires, ils sont le spectacle à eux seuls. Je parle bien sûr des supporters. Capables du meilleur. Ces derniers mois, dans l'Hexagone, on en parle surtout pour leurs excès. Et la question du supporterisme, c'est aujourd'hui un véritable problème public. Cassure avec les dirigeants, cassure avec les joueurs, cassure avec les instances, le dialogue semble rompu de toutes parts. Quelle place alors attribuer aux supporters? Ce sera l'objet d'étude de notre première partie. En seconde partie, j'aurai le plaisir d'accueillir Frédéric Scarmonci et Christophe Cécile Garnier. Ils sont co-auteurs de Supporters, un an d'immersion dans les stades français aux éditions Amphora. On parlera avec eux des chants homophobes, des interdictions de déplacement, des fumigènes, en bref, de tout ce qui émaille les tribunes de nos clubs. Mais tout de suite, c'est la papinade, le récap de l'actu nationale.
Vieira, où est pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas? Vas-y mon petit!
Swan, t'as fait le tour de l'actu mensuel en France, de tous ces faits marquants, ces insolites, et aujourd'hui t'as décidé de nous parler foot amateur, et plus précisément des arbitres.
Tout à fait. Alors que la France vit depuis plus d'un mois une grève intersyndicale centrée autour de la réforme des retraites, son monde du football va connaître ce week-end des 18 et 19 janvier un mouvement quelque peu particulier.
Un nouveau mouvement de grève générale ?
Il y a encore du chemin pour en arriver là, mais une initiative locale pourrait peut-être emboîter le pas. L'UNAF41, l'Union Nationale des Arbitres de Football du Loir-et-Cher, a appelé ses membres à faire grève ce week-end afin de protester contre les violences subies par leurs confrères sur et en dehors des terrains. 90% des arbitres amateurs du Loir-et-Cher devraient suivre le mouvement, d'après les déclarations du collectif. L'arbitrage des rencontres devra donc être assuré par les clubs, qui doivent prendre leurs responsabilités, selon le président de l'Union, Laurent Chodzinski. Cette annonce fait suite à une mobilisation pour des raisons similaires des arbitres normands mi-décembre dernier. Malheureusement pour eux, les matchs de la région avaient été annulés en raison des intempéries, ce qui avait totalement enrayé leur action. Laurent Chodzinski espère cette fois que la grève trouvera un écho auprès de la Ligue et aboutira à des mesures significatives pour la protection physique et psychologique du corps arbitral sur les terrains amateurs.
Et au niveau professionnel, comment ça se passe?
Pour les professionnels, pas de grève des arbitres à l'horizon pour le moment. Néanmoins, la trêve hivernale a permis aux joueurs et aux arbitres de profiter des fêtes de fin d'année et nous a quelque peu privés d'informations sportives croustillantes.
Mais même quand ils ne jouent pas, les joueurs savent faire parler d'eux.
En effet, le 22 décembre dernier, au lendemain du match PSG Amiens remporté 4-1 par les Parisiens, un contentieux entre Mickaël Youn et Marco Verratti est né sur les réseaux sociaux. Invité de l'émission Team Dugas sur RMC, l'acteur français, fervent supporter du PSG, a pris à partie le milieu italien en lui reprochant son style de vie débridé en dehors des terrains, s'amusant notamment du fait qu'il lui arrive de fumer. La femme du joueur est rapidement montée au créneau afin de dénoncer les propos de l'humoriste avant que Marco Verratti lui-même ne l'interpelle sur les réseaux sociaux en lui reprochant de ne pas mesurer les conséquences de ses dires. Finalement, cette affaire se termine plutôt bien puisque Michael Youn s'est excusé auprès du joueur et le club n'a prononcé aucune sanction à son encontre.
Il faut dire que les réseaux sociaux accentuent ces processus de polémique.
Et pas qu'un peu. Pendant la trêve, un jeune joueur des Girondins de Bordeaux a pu s'en faire une idée. Yacine Benraou a été au cœur d'une polémique avec son club et ses supporters. Le milieu de terrain s'est filmé sur les réseaux sociaux avec une tenue du Paris Saint-Germain et cette bourde a provoqué l'ire des aficionados bordelais. Benraou a tout de même réagi rapidement en retirant sa photo et en publiant un message d'excuses. Pas assez pour le club néanmoins qu'il a tout de même rappelé à l'ordre publiquement en insistant sur le respect de ses valeurs et de ses couleurs. Ce dernier a d'ailleurs été prêté au Nîmes Olympique depuis.
Et une petite info locale pour terminer et une bonne nouvelle du côté du Red Star.
En effet, d'après le Parisien, le stade Bauer de Saint-Ouen devrait être mis aux normes professionnelles au printemps en cas de remontée du club en deuxième division. Les travaux seraient ainsi estimés à 2 millions d'euros, un coût exclusivement à la charge du club. Des améliorations sont donc à prévoir au niveau de l'éclairage, des tribunes et de la vidéosurveillance, mais le gros du travail sera effectué sur le revêtement de la pelouse. La Ligue impose désormais que les stades soient en gazon naturel et non en synthétique, ce qui est le cas du complexe de Saint-Ouen. Cette mesure avait empêché les supporters de suivre leur équipe dans l'enceinte du stade Bauer lors des deux précédentes saisons de Ligue 2. Une annonce que les supporters se sont empressés de relayer avec joie sur les réseaux sociaux et qui devrait par ailleurs donner des ailes au club francilien pour la deuxième partie de saison, lui qui est bien placé dans la course à la remontée.
On souhaite vite en tout cas au Red Star de retrouver l'élite. Merci Swan pour cette revue de l'info française. On va entrer à présent dans le vif du sujet. Question simple, mise en jeu, réponse courte, c'est l'heure du tiki-taka.
La Manita, une émission Radio Campus Paris qui vous propose une certaine idée du football.
L'Olympique Lyonnais, le FC Nantes, l'OGC Nice, les Girondins de Bordeaux, l'AS Saint-Etienne, le Toulouse Football Club, le Nîmes Olympique. La liste elle n'est pas exhaustive mais elle désigne les clubs de Ligue 1 dont les groupes de supporters ont manifesté, de manière plus ou moins virulente et sur les 5 derniers mois, un ras-le-bol vis-à-vis de leur direction. Pas assez écouté, jamais entendu, les fans réclament à leur manière une implication plus forte dans le processus de décision de leur club. Ce qui peut donner lieu parfois à des scènes ubuesques comme à Lyon où des milliers de passionnés insatisfaits ont envahi la pelouse après une qualification en Ligue des Champions quitte à s'en prendre physiquement à leurs propres joueurs. Alors en France, le supporter se croit-il tout permis? Ou au contraire, face à des affluences qui stagnent et un foot français en retard sur ses grands voisins européens, doit-on leur accorder plus de place? Mais jusqu'où, dans ces cas-là, peut aller un groupe de fans mécontents des résultats ou de la politique du club? Le tableau, il est complexe à décortiquer, mais il est dressé et nos chroniqueurs vont maintenant tenter d'y réagir. Adrien, je vais commencer par toi. T'as regardé comment ça se passe en Europe, où l'implication des supporters dans la vie du club peut être bénéfique.
Oui, alors on part du côté de l'Espagne, où le concept des socios permet une gestion plus démocratique des clubs. Le Real Madrid, le Barça, pour ne citer qu'eux, marchent vraiment tous comme des petites démocraties, avec une assemblée, un président. Et pour une cotisation de 100 à 200 euros par an, les supporters ont donc un vrai droit de regard sur les décisions prises par leur club. D'ailleurs, Florentino Pérez a bâti son Real Madrid sur des véritables promesses électorales vis-à-vis des socios qui ont obtenu la signature des fameux Galactiques. Maintenant, on part aussi du côté on traverse les Pyrénées et le Rhin pour voir du côté de la Bundesliga qui possède sûrement l'un des meilleurs systèmes concernant les supporters, celui du 50+1. Alors le 50+1, c'est quoi ? C'est quand les clubs sont possédés majoritairement par des associations de supporters à but non lucratif, à hauteur de 50% plus une voix. Alors le meilleur exemple, c'est sûrement le Bayern Munich. Et cette règle évite d'avoir des actionnaires qui arrivent et ne connaissent rien au football et au club.
Alors l'objection à ce système de socios, elle sera signée de notre numéro 10, Paul. Parce que Paul, il y a des raisons pour lesquelles le système de socios n'a pas été mis en place sur notre sol et tu vas nous exposer tout ça.
Oui, alors Corentin, alors les socios, bonne idée, assurément, mais pas en France. Les raisons, bah, c'est très simple. La France n'est tout simplement pas une nation de football à diverses échelles. Alors, je vous épargne l'argument de l'incomparable affluence hein, dans les stades de Ligue 1, de Ligue 2 et de National. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre où se trouve le frein à une démocratisation de la pratique. Hein. Quand on parle de socios, on parle de supporters qui acquièrent un titre de propriété au sein du club pour en devenir actionnaire minoritaire. C'est un peu comme acheter une petite partie de son club. Et c'est en ce point que la législation financière française est extrêmement contraignante. Pourquoi ? Eh bien, car elle ne permet pas aux supporters de devenir actionnaire direct d'une structure équivalente à un club de football. Alors certes, on va me parler de Guingamp qui a ouvert son capital à ses supporters, oui, mais encore une fois, ces derniers passent par une association qui fait office de personne morale, et c'est bel et bien cette dernière qui est considérée légalement comme actionnaire au sein du club. Alors tant que cette législation ne sera pas modifiée, hein, le modèle des socios ne peut s'installer de façon durable dans l'Hexagone. Et c'est bien dommage, Corentin, puisque cela permettrait à certains clubs qui ne bénéficient pas du portefeuille de généreux propriétaires de pouvoir tout de même bénéficier d'un apport de capital supplémentaire dans un football toujours plus compétitif.
Alors, tu parles de Guingamp justement, donc je vais me tourner vers toi, Swan, parce que justement, tu as étudié le cas de Guingamp et tu as pu voir que même sans un système de socios totalement institué, le club et les supporters, ils ont quand même gagné malgré tout.
Bah, déjà, c'est avant tout symbolique. Comme Paul l'a dit, les supporters ne peuvent pas se constituer à proprement actionnaires du club, mais il y a eu un projet d'actionnariat populaire qui leur a donc permis de se constituer en association selon la loi de 1901 et qui leur a permis de devenir le 142e actionnaire du club. Chaque supporter pouvait verser une somme de 40 euros à l'association afin de la rejoindre et en contrepartie ainsi rentrer dans l'association. L'association va bientôt se structurer pour créer, afin d'avoir ses bureaux et d'élire un président qui pourra participer aux assemblées générales du club et qui pourra ainsi peser dans le processus décisionnel. Ce qui est important avec ce projet d'actionnariat populaire, tout d'abord, c'est que c'est le premier en France qui survient. Et ensuite, ça a permis d'équilibrer le rapport entre club et supporters. Ça permet un mode de gouvernance qui est beaucoup plus horizontal, même si je le redis, c'est avant tout symbolique, puisque, comme Paul l'a bien expliqué, les supporters ne sont pas à proprement parler actionnaires. C'est l'association Opération Calon qui est, elle, actionnaire du club.
Mais justement, Mehdi, parce qu'il n'y a pas évidemment que l'exemple de Guingamp, on voit ces dernières semaines qu'à défaut d'avoir un réel pouvoir, les supporters, ils ont recours aux moyens un peu plus extrêmes pour se faire entendre, mais ils y arrivent.
Ouais, exactement. Il y a eu les cas Genesio et Marcelo qu'on a vu récemment à Lyon. Mais il y a un cas un peu plus ancien qui me revient à l'esprit, c'est celui d'Anthony Mounier, par exemple, qui avait vu son prêt à l'AS Saint-Etienne, donc Anthony Mounier, ancien Montpellierin et ancien Gaune, qui avait vu son prêt à Saint-Etienne être avorté en raison de la véhémence des groupes de supporters des Verts à son encontre vis-à-vis de son passé lyonnais, aussi de quelques paroles qu'on qualifiera de malheureuses. Et qui ne plaisait pas vraiment. Donc le modèle, enfin, les supporters ont une certaine importance, mais le modèle a aussi des limites parce qu'il peut faire, s'il est mis en place, il peut faire vaciller une politique sportive.
Du coup, voilà, je me permets de rebondir vers tout le monde. C'est la vraie question, c'est du coup jusqu'où doit et peut aller un supporter, tout simplement.
Bah déjà, moi je pense d'un premier point de vue, il faut pas tomber dans l'anarchie. En France, on a déjà du mal à respecter des fois les institutions, etc. Quand on voit comment est-ce que ça peut déborder à Lyon ou même à Saint-Etienne, où les joueurs sont en capacité de choisir les joueurs à recruter ou pas, et même une fois que c'est décidé, de revenir sur une décision. Déjà, je pense que ça, déjà, c'est un problème qu'on a en France, hein, de respecter les décisions qui sont prises, etc. Maintenant, c'est sûr que si ça avait été concerté, ça aurait peut-être pas suscité autant de contestations, mais moi je sais qu'il y a plein de clubs qui sont pour l'ouverture du capital en fait à leurs supporters et donc permettre à ces supporters d'avoir un semblant.
T'as un exemple?
Bah Saint-Etienne par exemple, on sait que le président Cayazo avait estimé que ça pouvait être une solution bénéfique pour la SSE. On sait que eux n'ont pas le portefeuille que peut avoir un club comme l'OL ou comme Monaco ou comme Paris, et donc il nous donnait l'exemple en disant qu'avec 200 000 supporters actionnaires, et ben le club il pourrait financièrement être relativement on va dire en bonne santé financière à l'avenir, quoi.
Mais c'est quelque chose qui reste exclusivement financier, c'est un peu de ça qui malheureusement il est question aujourd'hui dans le foot business, c'est que ça serait bien que on ait des modes de gouvernance beaucoup plus horizontales, comme je disais avec le projet de Guingamp. Donc ça serait que les supporters puissent adhérer au club et participer aux AG, un peu comme on a sur les modèles espagnols, comme tu l'as présenté, Adri. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas ces identités régionales, et Paul, toi, tu le soulignais, il n'y a pas cette culture foot, peut-être, qui manque un peu. Et il y a très peu de clubs en France qui peuvent se targuer d'avoir une identité régionale forte, une identité historique, et c'est peut-être ça qui manque au club pour créer un réel lien avec leurs supporters.
Mais après, je pense que tu parlais de la Bundesliga et de l'Allemagne et de l'Espagne, et il faut un peu tempérer aussi ce modèle, parce que par exemple, en Allemagne, même si la règle du 50+1 existe, il y a vachement de clubs qui ne respectent pas forcément cette règle, notamment Leipzig, qui est un des plus connus, qui essaie de contrecarrer cette règle, et des clubs comme Wolfsburg, qui est détenu en majorité par Volkswagen, ou alors Hoffenheim, qui est propriété d'un milliardaire. Donc je pense que ce ne sont pas non plus des modèles qui sont forcément respectés, quoi.
Non, bien sûr, il y a aussi le cas du Barça. Cet été, avec les socios qui avaient voté contre un retour de Neymar, évidemment, on sait que si Bartomeu avait eu l'occasion de le signer, il l'aurait signé. et ce, sans même suivre l'avis de la majorité de ses socios. Donc, le modèle a ses limites et...
Bah, comme tu l'as dit aussi, il est contourné par les joueurs. On l'a vu à Lyon. Est-ce que ce qu'a fait le supporter avec, avec la pancarte de Marcelo, est-ce que c'était légitime ou non ? On a vu quand même que ça avait eu un impact, ça a fait avancer les choses. La réalité, c'est que quoi qu'il en soit, tu le disais bien Mehdi tout à l'heure, les joueurs, les supporters, pardon, ils n'auront pas gain de cause, mais ils vont trouver un moyen de faire passer leur idée, que ce soit en rentrant sur le terrain, que ce soit par des banderoles pour protester, ils vont faire passer leurs idées. Donc pourquoi pas trouver des moyens de mettre en place des structures qui permettent d'accompagner les supporters dans les processus décisionnels, un peu comme à Guingamp, même si on n'y est pas encore, bien sûr, hein, je ne m'avance pas trop. Mais il faudrait pouvoir, en France, en tout cas, je pense surtout pour le cas de Lyon, qui là est un moment un peu critique avec ses supporters, et notamment avec le groupe ultra des Bad Gones, il faut pouvoir créer des instances de communication pour faire remonter les souhaits des supporters et faciliter en tout cas les prises de décision, je pense.
Comment, selon vous tous, comment on rapproche les clubs et particulièrement les entraîneurs? Parce que je pense à Christian Gourcuff qui a toujours dit que les ultras n'y connaissaient rien et qu'ils devaient avoir aucun regard. Or, comment on fait avec ça pour rapprocher les joueurs? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les clubs, les entraîneurs et les joueurs sont très très loin de leurs supporters en fait.
C'est un peu le problème qui ressort souvent quand on parle des supporters. C'est un peu ce qui ressort le plus souvent, en tout cas, de la part des supporters envers leur direction, c'est qu'il y a une sorte de déconnexion entre le terrain et les bureaux des clubs. Donc, c'est souvent ça que les supporters font ressortir. Donc, je pense qu'en effet, des moyens de communiquer plus efficaces favoriseraient peut-être...
Après, ça peut être tout simplement un pouvoir juste consultatif, pas forcément décisionnel. Hein. Gourcuff, il dit qu'ils y connaissent rien, peut-être, mais en tout cas, ils peuvent au moins donner un avis. Après, on en tient compte, on n'en tient pas compte, mais au moins, ils auront le sentiment d'être consultés et d'être un peu importants pour le club, quoi.
Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris de la Manita. C'est la fin du tiki-taka. Tout de suite, on passe au Tour du Monde avec Adrien.
Nani pour Wayne Rooney.
Dans le Tour du Monde, comme son nom l'indique, Adrien, tu vas nous décliner un petit panorama de l'actu internationale avec là aussi des infos marquantes et des insolites. On va commencer par l'Angleterre et ses polémiques autour du Boxing Day.
Oui, alors le Boxing Day, cette tradition anglaise d'après Noël lors de laquelle se jouent 3 journées de championnat en seulement 8 jours et oblige les équipes à enchaîner les matchs à un rythme infernal. Donc si ce condensé de match ravit les fans de foot qui ont enfin un bon prétexte pour passer la journée devant leur télé et décuver tranquillement de leurs interminables dîners du réveillon, le son de cloche n'est pas tout le temps le même pour les joueurs et surtout pour les entraîneurs, de plus en plus réticents à l'idée de devoir jouer 3 fois en 5 jours. En effet, ces dernières années, les contestations se sont intensifiées, notamment de la part d'entraîneurs étrangers, moins habitués à cette tradition ancestrale. Le dernier en date, c'est Jürgen Klopp, le coach allemand de Liverpool, qui déclarait le 26 décembre dernier que c'était un crime d'imposer un tel calendrier aux joueurs et que, je cite, « il n'y a aucune raison de laisser seulement 48 heures de récupération à une équipe entre 2 matchs, c'est la science qui parle. Un argument de poids et un rythme qui fait débat donc. Mais en Angleterre, on ne plaisante pas vraiment avec les traditions, surtout quand elles rapportent beaucoup d'argent. En effet, à l'heure d'un football toujours plus bankable, le Boxing Day, grâce à ses audiences, est une source de revenus incroyable pour la Première Ligue. Mais Klopp a sûrement raison dans le fond, d'autant plus qu'il a déjà dû faire face à un calendrier surchargé en décembre lorsque son équipe jouait 2 matchs en 24 heures, un quart de finale de League Cup et la finale de la Coupe du Monde des clubs, ce qui l'avait poussé à aligner son équipe tierce contre Aston Villa pendant que son équipe première affrontait le Flamengo au Qatar. Seulement voilà, cela fait bien longtemps que ce sont les équipes qui doivent s'adapter au calendrier et non l'inverse, et cela n'est pas prêt de changer.
On va partir en Allemagne à présent, on en parlait tout à l'heure, et cette fois-ci pour le théâtre d'un match un petit peu particulier ce week-end.
Oui, ce n'est sûrement pas le match le plus alléchant, ni le plus équilibré de la saison, pardon. Et pourtant, le 18 janvier, pour le compte de la 18e journée de Bundesliga, le RB Leipzig reçoit les cheminots de l'Union Berlin. Alors Leipzig, c'est le petit jeune qui veut tout faire très vite, c'est Red Bull, un empire industriel, une multinationale, mais aussi un tour de passe-passe d'assez mauvais goût pour faire apparaître les lettres RB sur son blason. RB qui ne signifie pas Red Bull, mais Rasenballsport, en d'autres termes, sport de ballon sur gazon. Donc cela donne une équipe détestée en Allemagne, mais qui produit l'un des plus beaux footballs du continent, bien aidé par l'un des plus talentueux entraîneurs de sa génération, Julian Nagelsmann, un mois plus jeune que Lionel Messi, qui est parvenu à faire de son équipe bien plus qu'un simple trouble fait dans la surdomination bavaroise. Et en face, c'est l'Union Berlin, l'antithèse. L'Union, c'est le petit club de l'Est de Berlin, le Berlin des hipsters et des vieux communistes. Promu cette saison, l'Union, c'est surtout le club des cheminots. C'est un doux parfum d'ex-Einmann de l'Est et une gestion très socialiste et solidaire. Les Eiserne, les hommes de métal, 11e à l'heure où on parle, tenteront de contrecarrer les plans de leurs traîtres de voisins, tombés aux mains du capitalisme.
Tu as fini de nous pitcher le week-end par l'Espagne et la Liga avec un derby pas comme les autres.
Oui, alors le 18 janvier, Madrid sera le théâtre d'un derby pas comme les autres, comme tu l'as dit. En effet, Leganés reçoit son voisin de Getafe. Deux clubs pour deux villes sans histoire de la banlieue sud de Madrid. Leganés, en Liga depuis la saison 2016-2017, a, en trois ans, toujours flirté avec la relégation. Et cette saison pourrait bien être celle de la condamnation, les Pepineros étant 19e. La situation du club pourrait s'expliquer par son relatif manque de stabilité depuis le départ de Asier Garitano, l'homme responsable de la folle remontée du club, viré alors que Leganés s'était maintenu pour sa deuxième saison dans l'élite. Depuis, c'est deux entraîneurs en deux ans et une 19e place synonyme de grand danger. Mais de l'autre côté de l'autoroute A42 qui sépare les deux villes, Getafe est un exemple de gestion saine et raisonnée. Les Azulones, depuis leur remontée dans l'élite en 2017-2018, ont enchaîné les bonnes perfs en Liga, ne finissant jamais en dessous de la 10e place. A l'inverse de leur rival du Sud, l'entraîneur est toujours le même, Pepe Bordalas, fidèle au poste. Il a imposé un jeu rugueux fait de hargne et de discipline qui a fait ses preuves et qui n'est pas sans rappeler celui de l'Atlético. Cette saison, la bonne dynamique se confirme. Getafe était 5e à la trêve et donc parmi les prétendants aux places européennes en Liga. Mais surtout, les hommes de Pepe Bordalas se déplaceront à l'Estadio Municipal de Butarque, le stade de Leganés, en tant que futurs adversaires de l'Ajax en 16e du final de l'Europa League.
Un derby pas si équilibré finalement, mais que tu vas suivre, j'en suis certain. Merci Adrien, c'était le tour du monde de la Manita. On va entrer sans plus tarder dans la rubrique Remontada, où on remonte non pas le score, nous n'infusions pas cette peine, mais le temps pour des anecdotes inscrites dans l'histoire du football. Mehdi, tu vas nous ramener en 1995 aujourd'hui et nous conter la plus célèbre altercation entre un joueur et un supporter dont on fêtera les 25 ans ce mois-ci.
Ouais, petit flashback. Alors 95, c'est une période où nous n'étions que de pauvres petites poussières dans la cervelle de nos parents, hein, on va pas se mentir. Mais pour recontextualiser un peu le tout, on va revenir sur des petites histoires un peu plus fraîches dans nos esprits. Les joueurs et les supporters, c'est une belle et longue histoire d'amour ou pas. En effet, depuis de nombreuses années, nos amis dont le métier n'est que de courir derrière le cuir ne sont pas exempts de toutes les critiques et encore moins de tout reproche. Leurs rapports avec les fans sont parfois extrêmement complexes et certains joueurs, à bout, ils voient rouge et ils dégoupillent au point de s'en prendre violemment à leurs fans ou à des fans adverses. Donc ces dernières années, on a vu par exemple nos amis lyonnais qui ont cédé à leur côté primitif par deux fois, notamment en octobre 2017 en Europa League sur le terrain de Goodison Park. Et il y a quelques semaines à peine, lors du match décisif et bien tendu en Ligue des Champions face à Leipzig, où ils n'ont pas caché leur talent de boxeur et de trash talker. On peut demander ça, on peut poser la question à Marcelo et son beau majeur hein, pour se payer du supporter, se payer du bad gone surtout. Donc, et il y a le roi, bien sûr, le roi Neymar, qui a eu la douleur de perdre une finale de Coupe de France en avril dernier contre des losers quand même, faut le rappeler. Autant vous dire que le bonhomme en avait gros sur la patate et pour avoir la conscience tranquille, sans crier gare, le Brésilien il a foutu une petite tarte à un Rennais un peu trop vindicatif et... Bon, furtive, mais pas trop forte. Parle-moi
un peu kung-fu maintenant.
Ouais. Je vais te parler kung-fu là. Mais évidemment, le plus bel exemple restera sans doute celui du King, Eric Cantona, et son incroyable high kick sur un supporter. C'était un 25 janvier. Donc ça ferait presque 25 ans, un beau soir d'hiver, c'était en 95. Sur un supporter de Crystal Palace, un certain Matthew Simmons. Un supporter assez proche, voire très proche du National Front, un parti d'extrême droite anglais comme on les aime, hein, évidemment. Ce supporter, après avoir quitté sa place et qui n'avait pas vraiment froid aux yeux, il a lâché quelques mots doux à l'endroit du Français qui avait été exclu quelques secondes auparavant. Et le King, il n'était pas vraiment content, il s'est emporté très violemment et il a fracassé la poitrine du bonhomme. C'était plus spectaculaire qu'autre chose, mais bon, c'est un high kick de légende, hein, disons-le. Et ses coéquipiers, bon, notamment Peter Schmeichel, l'ont réprimandé. L'équipe, le lendemain, avait titré « indéfendable ». Cantona, lui, comme d'hab, il en a rien à faire et il avouera plus tard que c'était un rêve de frapper un mec comme ça. Et ce geste, forcément, il a marqué la conscience collective par sa violence, sa soudaineté, par la personne qui l'a fait. Rarement, voire jamais, on avait vu tel comportement entre un joueur et un supporter, et comme un symbole, ce geste est venu d'un roi.
Merci beaucoup, Medji, pour cette petite leçon de karaté.
La Manita. Une émission Radio Campus Paris qui vous propose une certaine idée du football.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 en Ile-de-France. Restez avec nous, car tout de suite, c'est la seconde partie de La Manita, l'émission qui propose une certaine idée du football.
Et il se glisse dans les petits espaces. Revient Pastore avec cette frappe.
Ils sont écrivains et journalistes indépendants. Pendant un an, ils ont suivi le quotidien des supporters de l'Hexagone, retracer leurs engagements et tenter de déconstruire la notion de supporterisme afin de rompre avec certains clichés. Leur ouvrage « Supporters, un an d'immersion dans les stades français » est paru il y a un an déjà, mais il n'a jamais semblé aussi actuel que ces dernières semaines. La Manita a le privilège de recevoir dans les studios de Radio Campus Paris Frédéric Scarbonchi et Christophe-Cécile Garnier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Déjà tout simplement, après un an, quel bilan vous tirez de votre livre ?
Après un an, le bilan, c'est que le livre est toujours d'actualité. Les questions qu'on a soulevées dans le bouquin se traitent encore aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des nouvelles questions aussi qui se posent. Par exemple, dans notre bouquin, on ne parle pas de l'homosexualité, de l'homophobie. Mais il y a tous les thèmes des déplacements, etc.
Des fumigènes aussi, oui.
Voilà,
on
donc,
retrouve en fait dans les travaux actuels de l'instance nationale du supporterisme et qui sont des travaux qui vont encore durer, je pense, pendant assez longtemps.
Ce projet, en fait, de tour des stades, vous en avez fait une vingtaine, si je dis pas de bêtises.
21.
Et il est venu comment ? Comment vous est venu ce projet, tous les deux ?
Alors, en fait, il est venu au départ d'une envie de faire plus de stades possible, un peu un projet de pote, qu'on est, en fait, entre Fred et moi. Et, en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, pourquoi, si on va dans les stades, on va pas aller en tribune de presse, parce qu'on est journaliste. On va aller dans les virages, parce que c'est ça qui nous fait plaisir, en fait, vu qu'on a été un peu éduqué au football dans ces virages-là. Et au fur et à mesure, on s'est dit, si on va dans les virages, pourquoi pas rencontrer les supporters ? Tiens, si on rencontre les supporters, pourquoi pas faire des articles ? Et du coup, derrière, on avait toute une masse de données qui a fait que on s'est dit, pourquoi pas le livre, en fait.
Vous dites que vous êtes éduqué dans les virages, vous étiez supporter de club, enfant, et c'est ça ce qui vous a donné, en fait, l'envie de...
On était tous les deux supporters de clubs de foot. Après, on n'est pas ultra, ni lui ni moi. On s'est intéressé à la question du supporterisme actif dans nos études au départ, puis en tant que journaliste. En fait, on trouvait que la question des supporters de foot était traitée que par le biais du fait divers. On s'est dit qu'il y avait des histoires à raconter, autres, sans oublier les mauvais côtés, mais essayer de pointer le stylo sur les animations, sur le fait que c'était un 12e homme important, qu'on prenait pas autant de plaisir quand on regardait un match quand il n'y avait pas de spectateurs que quand il y en avait. Donc il y avait plein de sujets à traiter, et on s'est dit, il y a peu de médias, à l'époque, quand on l'a commencé, qui le faisaient. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, médiatiquement, les supporters sont un peu mieux traités, un peu mieux considérés, mais on estimait à ce moment-là qu'il y avait des choses à dire sur les supporters de foot.
Vous pensez justement que le supporter, en France, il a une image négative, parce que c'est votre objectif, en fait, de déconstruire les clichés, c'est vous-même qui l'indiquez ?
Oui, il y a toute une partie qu'on consacre dans le livre sur justement l'image du supporter et comment elle s'est créée. Et en fait, déjà, on voit que depuis 20 ans, l'image a quand même un peu évolué, mais au départ, le supporter, c'est considéré comme un peu le gros beauf avec sa bière limite sur son ventre, tellement il est énorme, et en plus qui crie, qui bugle limite. Enfin, il y a vraiment tout un langage, en fait, qui correspond, enfin, qui s'est greffé au supporter au fur et à mesure. Et tout ça, en plus, avec la violence, parce que ça a été dû à des événements, en fait, comme le Ezel, qui ont fait que il y a eu des amalgames, en fait, qui ont été réalisés. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on comprend quand même que, enfin, le supporterisme, c'est quelque chose d'utile. Les clubs le comprennent de plus en plus, et on sort un peu de la maxime, la sempiternelle maxime, les joueurs jouent, les dirigeants dirigent, les supporters supportent. Il y a de plus en plus de prise en compte de leur avis.
Juste pour faire une différenciation, c'est-à-dire que pour la population en général, l'image des supporters est toujours très négative. Le supporter est quelqu'un de bête. Déjà, de regarder 22 mecs qui courent derrière un ballon de foot, c'est un problème dès le départ. Alors, regarder 22 mecs qui courent derrière un ballon, mais à 800 km de chez toi, parce que t'es allé l'encourager et t'as passé ton week-end à faire ça, ça devient encore plus incompréhensible pour eux. Le travail de construction, il prendra des années et des années. Par contre, c'est quelque chose qui a évolué, c'est au niveau des consultants, des journalistes de sportifs, etc. Avant, l'image était très négative. Aujourd'hui, on commence à comprendre un peu l'intérêt du supporter.
Dans votre livre, vous avez dit que vous voulez entrer en fait dans les intégrer les groupes de supporters. C'est quelque chose qui est difficile de recevoir leurs paroles.
Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que en fait, ils ont aussi eu des mauvaises expériences dans la presse, mais comme beaucoup de, enfin, comme dans la société actuelle, en fait, les journalistes sont assez, enfin, il y a une défiance générale envers les journalistes. Après, nous, ce qu'on a fait, bah, c'est qu'on est arrivé en parlant du projet et en disant, bon, ben voilà, et au fur et à mesure des articles qu'on écrivait, ils voyaient qu'on n'était pas là non plus pour raconter n'importe quoi, qu'on était là pour retranscrire ce qui se passait pour eux, en fait. Et du coup, au fur et à mesure, ça s'est quand même amélioré au final. Sur tous les groupes de supporters, il n'y a vraiment qu'un seul club où on n'a eu personne, c'était à Guingamp.
D'accord. Vous tenez également le blog Supporter, en fait, donc l'idée, en fait, c'est la même, c'était de poursuivre votre tour des stades, même après la sortie du livre, en fait, ça ?
En fait, c'était, l'idée, c'est que on veut faire ce tour des stades, on ne sait pas ce qu'on va en faire. On crée Supporter parce qu'on se dit qu'il nous faut un endroit où on va avoir le socle commun de nos idées. Et nous, on est journalistes freelance à l'époque. Et l'idée première, c'est de vendre nos articles à des médias qui seront intéressés. Au départ, on s'était mis d'accord avec Vice. Ça ne s'est pas passé comme on voulait par la suite, pour plusieurs raisons. Et du coup, on a fait un peu avec Vice. Après, on allait voir Eurosport, avec qui on a collaboré quelques temps. Puis on allait voir les Cahiers du Foot, avec qui on a collaboré longtemps. Puis on allait voir RMC Sport, avec qui on a collaboré un peu, etc. Et on a pu vendre nos papiers un peu partout, comme ça, pour parler des supporters d'endroit en endroit. Et Supporter permettait aux gens qui voulaient suivre le projet de nous retrouver dans un endroit fixe. Et c'est après le livre est devenu ce qu'il est. Il s'est pas appelé Supporter parce que le nom a été considéré trop moche par la maison d'édition. et on les comprend. Donc du coup, il s'appelle Supporter et c'est bien comme ça. Mais
et c'est en vrai fait... qu'après, on a continué à faire des papiers sur les thématiques Supporter parce que nous, ça continue à nous intéresser. En fait, quand Fred, par exemple, a fait tout un reportage pour AMC Sport sur un groupe d'ultra, en fait, de clubs de 7ème division, des ultra champêtres, nous, c'est des sujets qui nous bottent parce que c'est toujours en fait explorer un peu la passion à un certain niveau, quoi, que ce soit le plus gros niveau de première division ou que ce soit le plus bas, enfin nous ça nous intéresse tout le temps, quoi.
Voilà, ou parler des violences policières dans les stades de foot, comme on l'a fait pour SoFoot au mois de novembre dernier. Ça c'est des sujets qu'on traite en tant que Supporter, et le livre c'est des mecs de Supporter qui le font, c'est le socle commun de toutes les idées qu'on peut avoir tous les deux.
On va revenir avec vous plus en détail tout de suite, tout à l'heure, sur les grands débats qui agitent en ce moment le microcosme des supporters, mais avant cela, je le vois qui me regarde. Il s'avance le couteau entre les dents, il est prêt à nous dresser son portrait tout en subjectivité de l'ultra français à la limite du tacle. C'est la rubrique Jouer Messieurs.
Pas mon Messi ! Messi, il s'appelle Messi.
Oui, et aujourd'hui, nous recevons Frédéric Scarbonquier et Christophe Cécile Garnier, auteur du livre Supporter, un an d'immersion dans les stades français. Alors messieurs, je suppose qu'au cours de cette immersion, vous avez probablement dû fréquenter les tribunes des stades de football et ainsi rencontrer, voire sympathiser, qui sait, avec les ultras de chaque club. Mais alors, qui sont ces fameux ultras ? Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, l'ultra, c'est ce supporter fanatique se revendiquant oppressé, censuré, maltraité et qui se bat chaque week-end pour ça. Alors souvent précédé d'une mauvaise réputation, parfois même considéré comme violent, l'ultra n'est pas un hooligan, au contraire, romantique et créatif dans ses chants ou ses banderoles, particulièrement lorsque ces dernières s'adressent aux instances. L'ultra est une sorte de figure artistique du 21e siècle, présent chaque week-end au stade et même au stade Louis II, et oui, ce poète 2.0 s'exprime à sa façon. Alors messieurs, tout comme moi, vous devez posséder votre souvenir de la banderole qui vous a le plus marqué, cette banderole qui a su en quelque sorte attiser chez vous une sensibilité particulière. Je sais de source sûre que Corentin n'est pas insensible au chef-d'œuvre parisien sorti au Stade de France lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2008, qui titrait « Pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis ». ou plus récemment à l'Allianz Riviera dans un contexte assez tendu autour de la question de l'homophobie dans les stades, où la Populaire Sud nous avait gratifié d'un bienvenue au groupe Ineos. À Nice aussi, on aime la pédale. Bref, l'ultra, qu'il soit politisé ou non, se bat pour faire passer des messages malgré les suspensions et les interdictions, car l'ultra corentin, c'est un peu, pour nous journalistes, le Charlie Hebdo du football, hein, souvent plein d'humour, parfois provocateur et la plupart du temps borderline. Il fait partie intégrante du folklore autour de ce sport et bien souvent de l'identité d'un club. Et même si ce dernier lutte chaque week-end pour pouvoir transformer les virages des stades en champs de tir à feu d'artifice, en véritable Far West à la française où chacun craque son fumigène plus vite que son ombre, les groupes d'ultras sont bien souvent ceux qui font vivre une rencontre. Et force est de constater que le foot qu'on aime, celui dont on raffole, celui pour lequel on vibre, c'est aussi le foot avec ce genre d'ambiance.
Bah merci Paul pour ce billet à prendre avec toute la légèreté qui t'incarne.
Bien résumé.
on va passer quelque chose de plus sérieux maintenant, si vous le voulez bien. On va passer au fil rouge de ce premier numéro de la Manita consacrée aux supporters. Trois grandes questions au cœur de l'actualité. La première, c'est les chants homophobes dans les stades. La deuxième, ce sera l'utilisation des fumigènes. Et enfin, on va terminer par les tensions liées au déplacement des supporters à l'extérieur. On entre dans notre money time.
La Manita, une émission Radio Campus Paris qui vous propose une certaine idée du football.
Je vais tout de suite me tourner vers vous, Frédéric Scarmoncher et Christophe-Cécile Garnier. Ce sujet, il était inconnu quand vous avez écrit votre livre. Il est devenu une priorité gouvernementale en l'espace de quelques semaines, avant de disparaître aussi rapidement. Est-ce que vous avez senti quelque chose là récemment autour des chants homophobes dans les stades? Comment ça, vous avez perçu?
Bah, on l'a senti en septembre, hein, quand ça a commencé. On l'a senti en mai, quand les propos de la ministre des Sports ont commencé à sortir. Faut savoir que ça a commencé en mars, en réalité. Elle avait fait une première sortie. Le temps médiatique n'était pas bon, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas pris. Du coup, elle a retenté sa chance en mai. Et cette fois, ça a réussi à trouver un public, un écho favorable, souvent chez des gens qui n'allaient pas souvent au stade ou qui ne regardaient pas souvent le football. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que effectivement le sujet est complètement zappé, oublié, zappé. Alors qu'il y a de réelles choses à faire sur la question de l'homophobie dans le football en général, dans les stades, dans les centres de formation, dans les clubs professionnels, etc. Mais maintenant, la question est un peu oubliée. Après, on n'est pas dans les arcanes du pouvoir et on peut imaginer que. Enfin, on espère qu'il y a des gens qui travaillent quand même sur ces dossiers-là. Quoi.
Oui, mais par exemple, c'est vrai qu'un football. Le footballeur Johan Lemaire, qui avait fait tout un documentaire notamment aussi sur ces questions-là, bah, il s'était un peu, après le lancement de la polémique vers mai ou août, je ne me souviens plus, c'était un peu plaint que Roxana Maracineanu et Marlène Schiappa lançaient les polémiques, mais à côté de ça, lui, quand il avait fait des propositions et qu'il leur avait envoyé des messages, bah, il n'avait pas eu de réponse en fait sur ce retour, alors que c'est quand même quelqu'un qui connaît assez bien le sujet. Le problème en fait, c'est que il y a eu un peu, voilà, Votre comparse le disait très bien, les ultras, c'est un peu les sales gosses finalement du football, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est vrai que quand on a commencé à aborder ce sujet, eux, ils n'ont pas vu une lutte contre l'homophobie, ils ont vu une lutte contre leurs libertés supplémentaires qui sont rognées finalement quand même, on va le dire, chaque week-end, avec encore une fois, chaque fois des interdictions de déplacement et trucs comme ça. Et eux, ils l'ont vu comme ça. Et en fait, là où ça aurait pu être de précieux alliés, bah, en attaquant à U et à Dia, on va dire, sur le sujet, notamment à Nancy, où il y a eu, ça a été interrompu durant quelques minutes,
match, ouais.
Sans jamais en fait en avoir parlé auparavant, sans jamais discuter sur le moment, genre ça a été comme ça et c'était pas autrement. Et du coup, bah, c'est vrai que ça a amené chez les ultras, donc ces sales gosses ont commencé à inventer des trucs genre comme le Roxana Maracineanu Challenge, où c'était la meilleure banderole qui était récompensée, quoi. Donc ça montre aussi que les supporters, parfois, ils sont borderline, ils sont à la limite entre la provocation et parfois, mais toujours en essayant de toucher, entre l'ironie et l'agressivité, mais toujours en essayant de toucher justement là où ça fait mal, là où il y a de l'hypocrisie en fait. Et sur ce sujet, on en a quand même vu beaucoup, parce que comme tu le disais Fred, il y a beaucoup de choses à faire contre l'homophobie dans le football, mais c'est vrai que commencer à taper directement sur les méchants supporters qui sont homophobes et tout ça, sans jamais avoir l'ombre d'un dialogue au départ, c'était pour moi pas la meilleure chose à faire. Après, il y a quand même tout un folklore que les supporters, et je le dis en faisant les guillemets avec mes doigts, il y a tout un folklore que les supporters inventent lors de ces situations-là. Faut aussi rappeler que le folklore il y a 20-30 ans, c'était de faire des cris de singe envers les joueurs noirs, c'était de lancer des bananes sur le terrain, et ça a disparu. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Donc ce folklore-là, de toute façon, il faut bien comprendre qu'il est amené à évoluer. Et ce qu'on pouvait dire hier, n'est pas possible aujourd'hui, et certains chants, clairement, n'ont pas leur place, sans doute, aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez par exemple qu'il n'y a pas une sorte de un peu de dialogue de sourds entre les supporters et les hautes instances, parce que peut-être qu'il y a aussi le fait qu'il y ait peut-être trop de punitions et pas assez de...
Il y a toujours le côté on va vous punir, ouais. Après on va vous expliquer pourquoi, et après on va vous expliquer comment vous allez faire pour pas vous faire punir. Et c'est toujours le problème, et ça c'est sur tous les sujets, ça a toujours été comme ça avec les supporters. On leur donne d'abord le bâton, et après on leur donne la carotte, sauf que ça les intéresse plus. Une fois qu'ils ont pris coup de bâton, ils vont s'intéresser en quoi la question. Mais sur la question de l'homophobie et des chants homophobes, il y avait des ultras qui étaient prêts, même avant la polémique, à échanger. Ça a été le cas des ultras bordelais qui ont fait des réunions pour discuter de comment on peut amener à éviter ces chants-là. Et en fait, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on nomme dans ces chants, quoi, de quoi on parle. Et il faut savoir que c'est un pourcentage factice, mais en gros, deux tiers des chants qui ont fini devant la commission de discipline n'ont pas été sanctionnés. Parce que l'homophobie ne pouvait pas être caractérisée, parce que c'était la ligue, on t'encule.
C'est vrai que là, oui, il n'y a pas. En fait, juridiquement, c'est pas condamnable, quoi, parce que c'est une entité.
Donc c'est juridiquement, en fait, que c'est. Ouais.
Bah, en fait, c'est la différence entre, entre le juridique et la morale, quoi. Moralement, on peut estimer que dire on t'encule est discutable, et du coup, si c'est discutable, on doit en discuter. On doit expliquer aux ultras. Pourquoi il faudrait éviter d'utiliser ce champ-là avec des réunions, à force de pédagogie, comme propose Yoann Lemaire d'ailleurs, voilà, comme le proposent certaines associations. Mais on ne peut pas leur dire d'un coup, vous avez chanté ça tout le temps et on vous l'interdit. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a deux week-ends, il y a eu des chants homophobes pendant le match du dimanche soir, qui étaient pires que cela. Et le match n'a pas été arrêté, parce qu'on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas la solution pour créer un vrai contexte favorable à le premier but, c'est-à-dire arrêter les chants homophobes dans les stades de foot.
Et c'est là où c'est dommage, en fait, c'est que avant cette polémique, il y avait quand même beaucoup de discussions justement entre les associations de supporters et la Ligue. Enfin, il y avait, on ne va pas se mentir, il y a eu entre les associations de supporters et la Ligue une décennie, en fait, de perdu entre les années 2008 et 2018. Et depuis, justement...
Merci Frédéric Thiriez pour ça.
Et justement, depuis 2017, depuis 2018, on voit quand même beaucoup plus de dialogue, quand même, la mise en place des SLO, ce genre de choses, ça va dans le bon sens. Et c'est vrai que ça, ça a été quand même un coup assez fort porté sur ces dialogues. Et il y a une vraie défiance envers la Ligue, et une vraie défiance qui s'est traduite par beaucoup de chants, justement, orientés derrière, vers la Ligue, et donc les fameux chants dont on vient de parler.
On a beaucoup de choses à aborder, donc on va tout de suite passer au deuxième thème du débat. C'est quelque chose que vous avez en plus vécu. Je vais parler maintenant des fumigènes. En fait, je vais commencer par une question très simple, très basique, mais concrètement, est-ce qu'un fumigène, c'est réellement dangereux ?
Non. Deuxième question, c'est quoi ? Non, alors clairement, en fait, la dangerosité des fumigènes, c'est jugé sur l'usage d'engins pyrotechniques. C'est-à-dire que la LFP joue sur les mots quand elle utilise le nombre d'engins utilisés. On entend fumigène, en fait, elle parle de pétards, elle parle de tout. Et quand on parle de gens blessés, c'est pareil, elle ne parle pas seulement de fumigène, elle parle de pétards, de feux de Bengale et d'autres ajouts que les ultras ou que des supporters à côté trouvent bon d'utiliser. Aujourd'hui, nous, on a fait des recherches pour le livre, on n'a pas trouvé une personne blessée gravement avec un fumigène. On a trouvé des personnes blessées gravement avec un pétard, avec d'autres engins. Mais en tout cas, avec un fumigène, on n'en a pas trouvé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux. Si on va les acheter en Europe de l'Est et qu'on se les fait fournir un peu de façon bizarre et qu'on les allume sans savoir trop ce qu'on allume, etc., ça peut être très dangereux. Par contre, on voit très bien ce qui s'est passé à Saint-Etienne PSG il y a un mois. Mais à côté de ça, il y a eu des problèmes, hein, parce qu'il y a eu des tirs... parce qu'il n'y avait pas que des fumigènes, et il y a eu des tirs de certains produits vers les tribunes visiteurs, etc. etc. Mais voilà.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Y a le grand porteur de ce combat, c'est Noël Le Graët, notamment le président de la Fédération française, qui érige le modèle allemand, notamment, qui a un tout autre modèle que le modèle français, d'ailleurs, comme le modèle ultime. Sauf que le modèle allemand, c'est un modèle préventif. En France, on est sur du répressif. Et Noël Le Graët, dès qu'il parle de ces questions-là... dit qu'en Allemagne, par exemple, il n'y a pas d'usage d'engins pyrotechniques.
Ce qui n'est pas vraiment regarder la Bundesliga tous
voilà, les exactement. Oui, en effet. Et déjà là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de connaissance du monde, du supporterisme en général, de leurs us et coutumes, de leur façon de se comporter, notamment chez les ultras. Et c'est un vrai problème pour avancer déjà.
Sur la Bundesliga, c'est assez marrant parce que au final, on prend l'exemple de il y a pas de fumigène. Mais alors, par contre, en fait, on fait rien du tout. Contre ça en France, on punit les gens.
C'est ça, on dit à chaque fois c'est la loi.
Voilà, on vous punit, on vous explique pas pourquoi, on vous explique pas en quoi c'est dangereux, on vous le prouve pas, mais on vous punit. Regardez en Allemagne, ils le font pas, bah si, ils le font, mais c'est juste qu'ils le font autrement. Mais par contre, on peut prendre l'exemple allemand sur plein de choses. Les déplacements, Noël Le Graët ou la LFP devraient en prendre exemple. Sur d'autres thématiques, la façon dont les nouveaux stades sont construits. Quand on construit des stades en France à 40 km des centres-villes, sans transport pour pouvoir s'y rendre, et du coup les stades sont vides au bout de 3 mois.
Merci.
Voilà, l'Alliance Riviera, le Matmut Atlantique, tous ces beaux stades qui sont construits nulle part, sans bus pour pouvoir y aller, et où les stades se vident au bout de à la 80e parce que les gens ont peur de pas pouvoir rentrer chez eux. Ça, c'est sûr qu'on le voit pas en Allemagne non plus. Donc oui, il peut prendre l'exemple de la Bundesliga, mais il va falloir qu'il le prenne sur plein de raisons, sur plein d'autres éléments, et je suis pas sûr que ça soit son avantage. Par contre, sur le terme des supporters, l'animation des tribunes françaises, comparé à la répression et comparé aux bâtons qu'on met dans les roues des supporters français, eux, ils arrivent à tenir un peu plus la comparaison avec les supporters allemands. Et encore, c'est même si c'est très difficile, hein, mais voilà, eux, ils essayent au moins.
Et est-ce qu'à défaut d'avoir des instances qui se bougent ou qui veulent changer les textes, est-ce qu'on pourrait pas penser, de quel point de vue vous portez en fait sur, on a vu à Orlando par exemple dans les stades américains, où en fait on construit des tribunes dédiées entièrement aux engins pyrotechniques. Est-ce que ce serait pas plutôt ça la solution face à des instances qui au final, veulent pas bouger, quoi.
En plus, ces instances, quand on leur en parle, je pense qu'elles aimeraient bien, sans doute, certaines personnes, en tout cas, à travers ces instances, aimeraient bien que ça bouge. Malheureusement, pas toutes, et beaucoup se cachent derrière la loi. Mais c'est clair que ce genre de choses, pour nous, est la solution. Parce qu'au final, les ultras, finalement, sont assez ouverts à ce genre d'idées. À Bordeaux, ils avaient fait tout un dossier qu'ils avaient transmis à la Ligue en disant, on a prévu des fumigènes qu'on mettra ensuite dans des seaux remplis d'eau, avec les pompiers pas loin. Et ça, à l'époque, mais c'était il y a quelques années, ça avait été refusé en fait, parce que justement, encore une fois, il y avait une incompréhension par rapport à ça. Maintenant, il y a des discussions quand même sur les fumigènes, ce qui est encore impensable il y a 2-3 ans, avec l'instance nationale du supporterisme. Et il faut espérer justement que ce genre de proposition soit de plus en plus faite. Et je crois que ça a été fait récemment. C'est justement pas les Bordelais qui ont fait quelque chose où il y avait des pompiers ou des trucs comme
oui,
ça.
Oui,
et le craquage était autorisé, on va dire.
Amiens en fin de saison aussi, organiser des choses comme ça. Angers pour son anniversaire.
C'était ça, c'était Angers.
Angers pour son anniversaire, organiser quelque chose, voilà. Ils essayent. Après, c'est comme le disait Christophe, il y a un point fondamental qui est pas lié là, par contre, à la Ligue, c'est que c'est interdit aujourd'hui. C'est la loi qui dit que c'est interdit. Et que c'est vrai qu'on doit en passer par un changement de la loi pour essayer d'avoir des évolutions majeures, parce que c'est vrai que même dans les hautes sphères de la Ligue de football professionnel, on ne serait pas défavorable à l'utilisation de fumigènes dans un cadre très strict, très encadré, très loin de ce que veulent les ultras, mais ça ferait déjà un premier rapprochement. Voilà.
En fait, le principal problème qu'on a eu depuis ces 15 dernières années, c'est qu'en gros, le fumigène a été vraiment commencé à être criminalisé. Autant auparavant, il était interdit par la loi, mais quand il y en avait dans les stades, la Ligue ne prenait pas de décision. Là, la commission de discipline a commencé à donner des amendes, et en fait, surtout, a commencé à ne pas donner des amendes aux clubs qui larguaient leurs propres supporters, donnaient les infos et tout. Et ces supporters-là sont commencés à se retrouver comme des bandits, des victimes, comme si c'était du grand banditisme, en fait. On se souvient, là, en début de saison, les Toulousains qui avaient craqué des fumigènes, qu'on a retrouvé ensuite, que la police est arrivée chez eux à 6h du matin et a donc foncé la porte comme si c'était des terroristes, quoi, en fait. Donc on est vraiment sur on les considère vraiment très bizarrement, quoi, ces fumigènes-là.
On a dernier dossier, je suis obligé de couper Monsieur Amédiarab.
On parle trop, je suis désolé.
Couper le micro de Monsieur Amédiarab. parce qu'on on voulait finir sur ce premier numéro de la Manita en abordant la question des déplacements. On était sur une période de fête du foot anglais au mois de décembre et janvier avec le Boxing Day où les parkages extérieurs ils sont pleins à craquer, où l'ambiance est archi festive. Donc ma question elle est simple, comment on explique qu'en France les supporters n'aient tout simplement quasiment jamais le droit de se déplacer et que quand ils le font, ça se passe parfois très mal.
Eh bien, c'est super parce qu'en plus on a plein d'exemples qui sont passés ce week-end, c'est génial. Alors je rappelle juste Liverpool-Everton, 8000 supporters de Everton pour un derby, toute la tribune qui chante et tout, c'est magnifique à voir. Bayonne-FC Nantes, les supporters nantais qui avaient tout vu avec le club. Hein. Tout était bon, ils arrivaient, ils s'étaient calés avec un bar, ils arrivent dans le centre-ville. Et là, on leur dit, enfin, le préfet dit « Ah non, non, je veux pas de ces supporters dans ma ville. » Le préfet de la région qui leur dit « Bon, ben, vous allez direct au stade. » Il était 9h30 du matin. Du coup, les supporters, en se disant « On va passer 5 heures au stade, enfin, rien faire, c'est pas possible. » Donc, du coup, ils sont barrés, en fait. Et du coup, ben, y a pas eu d'animation de la Voyelle Loire en tribune. Et ben, ouais, tout ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, pour répondre à votre question, ben, en gros, on a commencé à prendre des mesures de façon complètement liberticide de la part des préfectures, notamment, qui étaient de restreindre en fait les allées et venues des supporters, soi-disant pour préserver la sécurité dans les stades. Mais au final, bah, on a constaté que c'était finalement très mal géré à chaque fois qu'il y avait des problèmes. Enfin, Beşiktaş, enfin Lyon-Beşiktaş, l'Euro 2016. Enfin, finalement, en fait, à tout interdire, bah, on n'est pas préparé aux vrais dangers qui sont les supporters parfois turcs d'Europe de l'Est, qui eux sont des vrais malades, enfin beaucoup plus des vrais malades que chez nous en France, quoi, finalement. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose aussi.
Non, on va laisser poser des questions.
Non, Mehdi,
je suis totalement d'accord aussi. Il y a un problème en France, c'est que on n'a pas cerné la sociologie du supporter. La brigade qui lutte contre les excès des supporters s'appelle la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Hormis en France, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'hooligans. Déjà, il y a un problème. Et une fois, il y a eu l'exemple de l'Euro 2016, une fois qu'il y a eu des vrais hooligans qui sont venus, on ne savait pas comment les gérer. Et là, il y a tout un problème et il y a toute une politique à revoir.
Tu veux continuer
ou non,
En fait, c'est super intéressant que tu pointes du doigt le nombre des NLH, parce que nous, effectivement, on a rencontré le patron de la NLH et on lui a posé la question sur l'usage du mot hooligan. Et en gros, lui dit que c'est un mot générique et qu'il ne faut pas se formaliser. Mais bon, c'est comme si, je ne sais pas, pour une contravention, tu voyais débarquer le parquet antiterroriste, quoi, et tu te disais, ok. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Donc, au final, oui, les mots sont importants, mais c'est surtout qu'au final, quand on leur parle de hooliganisme, parce qu'il y a des hooligans en France, hein, ils existent.
Il y a une enquête qui est sortie aujourd'hui sur Street Press, sur les hooligans d'extrême droite.
Nous, on les a vus, on les a jamais rencontrés, mais on les a vus, ils sont reconnaissables, on sait aussi les liens qu'ils ont avec certains groupes, etc. Et pourtant, quand on parle avec la DNLH, on nous dit « Ah non, mais c'est 50 mecs... C'est 50 mecs un peu partout en France. Donc, en gros, ils se concentrent sur la question des ultras, alors qu'au final, normalement, c'est pas leur rôle. Quoi.
Et quand on leur parle des vrais hooligans, notamment ceux que je viens de citer, parce que je viens de faire l'enquête sur le sujet, ils n'ont pas voulu communiquer en fait, sur le sujet. Parce que, je sais pas, pour eux, ça se résume juste à quelques centaines, ils veulent pas en parler. Mais du coup, il y a un problème étymologique, clairement.
Mais est-ce que vous pensez que ces erreurs d'appréciation un peu de la part des hautes instances, c'est pas aussi parce que, vu que c'est souvent les arrêtés préfectoraux qui empêchent les supporters de se déplacer et que ces arrêtés, les préfets en fait dépendent directement du ministère de l'Intérieur et c'est peut-être des instances qui sont pas très familiarisées avec le monde du foot et du coup qui connaissent pas vraiment les dynamiques des...
Il y a deux choses, hein, c'est que bien sûr il y a une méconnaissance totale de la question du supporter, mais à côté de ça il y a aussi une façon de se gargariser que ça soit au niveau des préfets ou du ministère de l'Intérieur sur la façon de gérer les supporters. Si on discute avec monsieur Laurent Nunez, il est persuadé d'avoir une grande expérience sur la question du supporterisme et il est persuadé que la façon dont les polices françaises traitent les supporters est un modèle européen, quoi. Donc on est quand même dans un... Enfin, nous, il nous l'a dit en interview et devant des agents de police, on était présents et il leur a dit qu'ils étaient un modèle en Europe sur la question du traitement des supporters. Donc il y a quand même une distorsion entre ce qu'on se contacte nous en tant que journalistes sur le terrain et eux, ce que eux ont l'impression de vivre. La question des traitements, des encadrements par les préfets, des interdictions par les préfets ou des encadrements de supporters demandés par les préfectures ou par le ministère en circulaire, elle se pose et elle se posera tant qu'il n'y a personne qui fera le lien entre les associations de supporters, les clubs, et le ministère de l'Intérieur. Parce qu'on nous dit qu'il y a des réunions, mais au final, ces réunions sont souvent des réunions d'information et pas des réunions de discussion et d'échange.
Et là où c'est un problème, c'est qu'en fait, ça, au départ, ça touchait les ultras, principalement, mais on voit que maintenant, ça commence vraiment à toucher tout type de supporters, et notamment à Nîmes, juste avant les vacances de Noël, les Nîmois qui se sont déplacés au Vélodrome, alors ils étaient 250 de plus, enfin, ils étaient 500 au lieu de 250, en fait, il y a 250 supporters, enfin, mais vraiment supporters, et c'était pas des ultras pour le coup, il y avait des enfants, des vieux, enfin, des personnes du troisième âge, pardon, et... et du coup, ces gens-là, en fait, ils se sont fait vraiment, ils ont été considérés comme des criminels parce que bah, les policiers, enfin, les ont ramenés, les ont escortés, toute une escorte de policiers qui, soi-disant, étaient, enfin. On interdit la jauge soi-disant parce qu'il n'y a pas assez de policiers, mais au final, il y a toute une armée pour les ramener jusqu'à Nîmes et s'assurer qu'ils vont bien à Nîmes. Et une fois à Nîmes, bah, il y a eu en fait, des mouvements de foule, des lancements de grenades lacrymogènes, des enfants apeurés, des personnes âgées blessées et tout. Et ça, en fait, ça amène ces dérives-là et ça montre que, alors que par le dialogue, en fait, ça montre que c'est possible. En Angleterre, ils ont eu tout ce problème de hooliganisme, ils ont réglé ça par dialogue, bah, il y a 8000 fans dans les tribunes. Quoi, et,
Bayonne-Nantes, même chose, hein, c'est-à-dire que. On a passé de force de police, déjà, alors arrêté, qui est pris illégalement parce que pas déposé en temps et en heure, pris sur un coup de fil, simple coup de fil du préfet qui met en place cet arrêté. Enfin, c'était ubuesque la situation pour le match Bayonne-Nantes. Et en plus, on ramène les supporters jusqu'à Nantes avec des forces de police colossales et on déploie des mecs, des policiers de Bayonne jusqu'à Nantes, les mecs vont faire l'aller-retour toute la journée, sont pas sur d'autres missions, parce que, soi-disant, on n'avait pas de quoi encadrer des 50 supporters dans un restaurant qui était déjà au courant que les supporters allaient aller dans cet endroit, c'était réservé, etc. Le temps de 2 heures avant le match, et donc on renvoie tout le monde chez soi, enfin, c'est hallucinant.
Et tout ça, c'est le contribuable qui paye, donc vous.
Voilà. Eh bien, écoutez, mes connaissances, mes ententes, c'est un peu les mots forts de ce que vous venez de nous dire. C'est un tableau un peu sombre qui est dressé, mais merci en tout cas, Frédéric et Christophe, d'avoir inauguré la Manita. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
Pour rappel, votre livre Supporter, un an d'immersion dans les stades français, il est toujours disponible aux éditions Amphora. Et puisqu'on méconnaît la culture du supporter, autant se le procurer très vite. Un grand merci à notre équipe de chroniqueurs.
Merci beaucoup.
À Christophe Dacunha, tous les bénévoles de Radio Campus Paris. Un mois, c'est long avant la prochaine émission, donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de la Manita, Facebook, Twitter, Instagram. On se retrouve très vite pour un tout nouveau rendez-vous. Ciao.
Ouais, désolé, on est très bon.